Pierre qui est toujours bien accompagné, c'est Audrey Pinchot qui est là ce matin, comme à son habitude. Sauf que ce matin, elle avait de l'air perplexe quand je l'ai croisée dans les corridors. Faut dire que le matin, on se croise pas vraiment. Je me prépare dans une autre pièce et elle se prépare dans le Zoo, qui est une station de radio.
Mais oui!
Et puis, c'est ça, quand je t'ai croisée, je trouvais que t'avais de l'air perplexe, pensive.
C'est
positif, ça, quand un gars croise une fille et la fille a de l'air pensive et perplexe?
Je sais jamais comment prendre ce genre de commentaire-là, parce que tu dis toujours, bon, c'est bienveillant, mais j'ai-tu l'air poqué?
Je te l'aurais dit.
Non, ben j'étais concentrée, tiens. J'étais sur une go, là.
Ouais.
J'avais un rendez-vous un matin.
T'as pris une brosse hier?
J'ai pas pris une brosse.
Non.
J'ai fait une drôle de constatation hier, d'ailleurs.
Oh.
On avait une réunion d'équipe, on est allé manger une bouchée au Cosmos. Puis, ça n'a pas fini super tard, là. C'est sûr que moi, j'ai la route qui fait que j'arrive un peu plus tard à la maison, mais j'ai pris un Bloody Mary Virgin.
OK.
Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, un Bloody Mary Virgin, c'est du jus de tomate.
Exactement.
Qu'on me charge comme...
pas d'alcool. Ouais.
Fait que j'ai pris un Bloody Mary Virgin. Fait que non, j'ai pas bu hier. Je me suis couché un petit peu tard, mais non, je suis de bonne humeur.
Tu te fais tranquille.
Okay. Oui, mais oui, il faut, okay. Yann.
Hey, c'est 12 degrés sur Québec pour aujourd'hui. On annonce de la pluie dans le quartier Le Bourgneuf. C'est déjà commencé depuis déjà quelques minutes. Ça devrait être ça toute la journée, les amis. Un maximum de 19. Ce soir, ce sera des nuages avec 40% de probabilité d'averse aussi. Minimum de 13 degrés. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera nuageux avec 40% de probabilité d'averse en matinée. Et peut-être aussi en après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne, entre 5 et 10 mm annoncés, maximum de 17 pour mercredi, jeudi de la pluie intermittente et vendredi, ce sera nuageux. Donc voilà le topo pour le reste de la semaine. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est le 418-971-101. 418-971-101, vous avez des choses à nous dire. Merci d'être nos yeux, nos oreilles par texto.
Il y avait de bons ralentissements ce matin. Je sais qu'il y a eu un accident aussi là, qui a créé du ralentissement dans le coin de Robert Bourassa. Là, pour l'instant, vois-tu, leur ancienne direction sud, quand vous allez chercher la bretelle pour la capitale ouest, il y a encore quelques ralentissements à prévoir. Sinon, capitale est entre Henri IV et Robert Bourassa au ralenti. Mais le reste, ça roule super bien pour l'instant. Fait que vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Toi, Yann, t'as l'air tranquille ce matin.
Tranquille, oui, zen. Il y a des choses qui se placent dans ma vie, puis je suis bien content de ça. Je suis de plus en plus paisible. Je vais être rendu crissement plate à la radio.
Hé, mon Dieu, OK, là, une grosse annonce.
Non, sérieusement, non. Ce matin, j'étais assez relax aussi. Je dois pas avoir pris assez de café, j'imagine.
Est-ce que la température t'affaisse, toi?
Ouais, longtemps, j'ai dit non. J'ai toujours été un oiseau très nocturne. Puis depuis que je suis forcé de travailler de jour, c'est sûr et certain que quand le soleil est là, ça fait toute une différence.
Moi, les températures de même, c'est vraiment ça, ça m'apaise. Ouais. Ça me rend tranquille, ça me rend...
Puis tu le vois peut-être aussi chez les animaux, là. Tu sais,
oui.
Quand il y a des gros rayons de soleil, là, t'es vois sortir un peu de la forêt, puis ils sont juste à l'orée, là, à l'orée du bois. Puis ils se font chauffer à couenne pendant des minutes et des minutes, le temps de se réchauffer, puis après ça, ils retournent dans le bois. C'est sûr que ça nous affecte. Puis la lumière, tu sais, novembre, là, c'est un des pires mois pour le manque de lumière. Décembre aussi, quoique au mois de décembre, on a les fêtes. Mais oui, j'ai longtemps dit non, mais je me rends compte que j'apprécie... beaucoup le soleil. J'apprécie beaucoup le sud aussi, soit dit en passant.
Ah, ça, on y a pas assez accès. Ouais.
Hey, dimanche, il y a une journée spéciale. T'as-tu déjà passé à ta journée de dimanche?
Qu'est-ce qu'il y a dimanche?
Hey,
là, non, mais là, tu me fais... attends, là. Qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce que ça pourrait être dimanche?
Attends,
par texto, 418-971-1021, 418-971-1021.
Ah, c'est la fête des mères!
C'est la fête des mères!
Hey, déjà!
T'as-tu un calendrier?
Non, j'ai pas un calendrier, mais j'ai calculé dans ma tête. On était le 6, j'ai fait des petits bons. Je me suis rendu à peu près en fin de semaine.
Dimanche, c'est la fête des mères.
Ouais.
T'as-tu l'intention de faire quelque chose de particulier pour la fête des mères?
Bien, c'est sûr que moi, j'aime bien souligner la fête des mères. Fait qu'assurément que je vais voir ma mère.
Qu'est-ce qu'on donne à une mère?
Là, je vais être plate dans ma réponse, OK? Là, mais moi, depuis 2-3 ans, c'est des moments plus que des cadeaux. Avant, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les cadeaux. J'achetais genre des forfaits spa. Et je trouve toujours ça super le fun.
Là, tu t'achètes une maison, fait que t'es rendu cheap.
Ben oui, mais non, mais je la porte autrement. C'est ça, je suis ratoureuse. Je dis, je t'offre un moment avec moi. Ça permet de prévoir à long terme. Puis ben des fois, je vais nous offrir le spa à toutes les deux ou je vais nous offrir une activité.
Allez-vous manger au resto? Parce que bien souvent, moi, je me souviens, du temps où je travaillais dans la restauration, les dimanches de la fête des mères, c'était...
Les brunchs, surtout.
C'était gros. Les brunchs et les soupers, là, ouais. C'était très, très gros. Je sais pas si c'est encore comme ça.
Non, nous autres, on fait ça à la maison, par exemple.
Les gars, ça ne leur tente pas de faire de la bouffe. Fait qu'ils disent, regarde, on va sortir la mère, puis après ça, ça, c'est fini, ça va être réglé.
Mais nous, tu vois, chez nous, là, c'est très, très simple. C'est des fleurs, on fait un brunch en famille. Puis on a toute une petite pensée, évidemment, pour elle, puis on profite du temps. Mais plus je vieillis, moi, personnellement, plus j'aime qu'on m'offre des moments, puis j'aime offrir des moments, parce que ça nous oblige à prendre du temps ensemble, puis c'est précieux, plus le temps avance aussi. Là.
Ouais.
Fait que c'est quéterne, je sais. Là, mais,
cette semaine, c'est une belle semaine pour les fleuristes. Là. D'ailleurs, fleuristes sont-ils tous multimilliardaires?
Je pense vraiment pas. Je pense que les fleuristes vivent sur la Saint-Valentin, la fête des mères.
Ben, pas tant.
Les funérailles.
Oui, mais là, des funérailles, il y en a tous les jours, là.
Oui, mais là, c'est sûr.
Puis la grosse batch n'est pas encore passée. Là.
Ben, 971, on connaît-tu du monde qui ont des fleuristes dans la famille?
À un moment donné, ils vont arrêter de voter libéral.
Ben, je pense pas qu'ils sont ultra riches parce que je pense qu'il y a des gros, gros bas comme dans n'importe quel business au niveau des fleurs.
Hey, je pense qu'il y a de ça quelques années, là, à Sainte-Marie-de-Beauce, c'était 3 roses pour 50$.
C'est cher,
là. Tu avais un arrangement avec ça, des petites fleurs là, qui étaient aux côtés, des roses avec le truc de plastique.
Les feuilles vertes, là.
L'enrobage, tu sais. Mais c'était quand même 3 roses pour 50$.
Juste à l'épicerie, quand tu vas pas chez le fleuriste, là, que tu achètes juste, mettons, un petit bouquet que j'appelle cheap, là, on sent que les fleurs sont super belles, mais à l'épicerie, là... T'es dans le 25-30$, là.
Rose Drummond, existe-tu encore?
Hey, j'ai aucune idée.
Rose avec un S, j'imagine. Drummond.
Ben là, ici, j'ai Rose Café Drummondville. C'est ça que tu cherchais, mais j'imagine que tu cherchais quelque chose de
Rose Drummond, fleuristerie.
Ah oui, ça existe encore.
Hey, je montais là, moi. Juste pour te dire à quel point j'étais...
J'étais
romantique dans le temps. Ben, je pense que c'était 100 roses pour 50$. Ou le contraire.
C'est parce qu'elles étaient moins chères.
C'était 50 roses pour 100$.
T'es cheap, dans le fond.
Oui, exact. 418-971-102. C'était quoi le montant dans le temps pour avoir une cinquantaine de roses, une centaine de roses? Mais c'était l'enfer à quel point il y a des gars qui se ramassaient à Drummond pour la Saint-Valentin, exemple.
Mais c'est pas obligatoire. Je sais pas pourquoi il y a une pression qu'on se met d'acheter puis de payer cher. Puis c'est comme à Saint-Valentin avec les boîtes de chocolat puis les... Je trouve ça un peu niaiseux. Tu sais, moi, je pense qu'il faut que ce soit souligné. Ça, moi, j'y tiens. Ça doit être souligné. Mais ça peut être souligné de façon très, très simple. Moi, le monde qui dépense, tu comprends, des 500$, là, trop ça intense.
Moi, ça me coûte quand même assez cher à la fête des mères. Parce que j'ai plusieurs mères autour de moi, puis j'en donne à tout le monde.
Ouais.
Tu sais, je ne sais pas vous autres comment c'est organisé dans votre coin. Là. Je ne sais pas si vos familles sont séparées. Mais moi, la mère de mes enfants, elle a toujours un cadeau à la fête des mères.
Ben, j'espère!
Ma conjointe qui a des enfants, c'est une mère, elle a toujours un cadeau à la fête des mères.
Ça te coûte une beurrée.
Puis je suis pas un grand cuisinier, ce qui fait en sorte qu'elle refuse que je réchauffe des plats congelés. Fait que t'es obligé de l'amener au restaurant.
Ah, fait que ça coûte des sous!
Ça va me coûter à peu près...
500, genre?
Non. C'est mon âge, je suis pas riche, moi, là. Mettons, ça va me coûter entre 100$ de cadeau, parce que là, il y a une certificat cadeau qui vient avec ça, tu comprends? Fait que entre 100 et 200$.
Quand même.
Mais c'est, tu sais, pour gagner, pour cracher 200$, tu vois à quel point je suis un cheap, pour cacher 200$, Pincho, faut que j'en fasse 400 jobs.
Ben non, c'est ça. Ouais. Toi, tu calcules tout ça, là. Je veux juste saluer Pascal, notre collègue du midi, ta complice du midi, qui propose quelque chose d'intéressant. Si on est tes mères, moi et elle, parce qu'on te gère à semaine longue, on a-tu droit quand même à une pensée? Parce que on a quand même un grand rôle, là.
Hey, ça donne-tu bien? Je vous vois jamais à la fin de semaine.
Non, mais lundi.
Mais non, ça sera plus la fête des mères. C'est dimanche. Je suis désolé. Je vous croiserai pas, malheureusement, dimanche. Mais tu sais, si je mettons, la fête des mères avait été un lundi, vous auriez été gâtés.
Je trouve que tu es un enfant ingrat. Pour reprendre les paroles de Pascal, je trouve qu'elle a raison.
Mais c'est ça. Fait que ça va me coûter à peu près entre 100 et 200$.
Mais c'est sûr que tu es dans la moyenne en passant. Je suis convaincu.
Je la connais, la moyenne.
T'as connu?
Je la connais.
T'es un homme plein de ressources.
Est-ce que ça a augmenté par rapport à l'an passé ou ça a diminué?
Ah, je pense que ça a diminué.
T'es un homme plein de ressources. Tout le monde sait que je suis un journaliste d'enquête.
Ah, bah oui, on
de loin, le meilleur journaliste d'enquête au Québec.
La crédibilité incarnée.
Exactement.
Yannick Marceau.
Merci.
je pense que ça a diminué parce que le budget général a diminué.
Toi, tu penses que ça a diminué? Moi, je pense que ça l'a augmenté.
Mais là, toi, t'as une réponse. Fait que tu vas me dire que ça a augmenté.
Non, parce que moi, je suis honnête. Fait que même si j'ai la réponse, je te donne la réponse que j'aurais eue avant de lire l'article.
Fait que c'est quoi la réponse?
Les consommateurs québécois vont dépenser, selon l'agence QMI, 247 $ en moyenne à l'occasion de la fête des mères. Ah. C'est une baisse de 20% comparativement à l'an passé.
Mais ça me surprend pas pantoute, on est pauvre.
Les dépenses prévues concernant l'achat de bijoux, 217 $.
Fait que c'est encore populaire, ça, les bijoux.
Là, c'est en hausse de 30%. Il y a des gens qui décident d'acheter des bijoux. Il y a quelque chose de cool à acheter un bijou.
Oui.
J'ai acheté... c'est rare que j'achète des bijoux, là, parce que j'ai tout le temps peur qu'elle pense que c'est une bague.
Bon.
Tu sais, à chaque fois, j'ai eu des blondes.
Mais là, faut que tu demandes un coffret différent du petit carré.
Tu sais, j'ai pas eu 150 blondes, là. Je n'ai eu 4 dans ma vie, là. Mais à chaque fois que je pensais acheter un bijou, puis ça arrivait dans une boîte, j'avais tout le temps comme...
La crainte qu'elle soit déçue.
Mais non,
parce
elle,
que...
peu, elle était déçue.
Oh!
Hey, regarde-moi.
Ah, oh, franchement.
Mais elle était déçue. Elle ouvrait son petit cadeau dans la petite boîte, puis elle dit « Ah! Oh, c'est une chaîne! » Puis là, les amis étaient autour en disant oh, « On pensait que c'était la fameuse
la
pack
bague.
De fiançailles. » J'ai toujours été hésitant ouais. à acheter des cadeaux. Puis, un moment donné, Isa à la maison a dit hey, « J'aimerais ça avoir un bijou. » Mais elle a dit « Moi, j'ai un bracelet, ça s'appelle un Charming. »
Ah oh, ouais, je sais c'est quoi.
Quelque chose de genre.
C'est l'affaire que tu mets des petites breloques?
Ouais. Fait que là... Une fille qui a ça, là, tu peux y acheter des Charmin.
Ouais.
Il y a juste une boutique où ils vendent ça. Là, de ce que ouais. je comprends, une entreprise qui vend ça. Puis là, tu achètes ça, puis elle va se souvenir de toi jusqu'à la fin de tes jours.
Ben oui, parce que la breloque en soi vaut très cher. Là.
Moi, je pensais que c'est parce que je te faisais bien l'amour. Mais elle m'a dit non, c'est le
t'es
bijou.
T'es déçue.
Elle m'a dit vraiment, c'est... elle m'a dit que c'était le bijou.
Vous achetez quoi, vous autres? 88-971, ça va peut-être me donner un peu d'inspiration en même temps. Là.
Donc, les bijoux, c'est une augmentation. C'est une hausse de 30%. Pour ce qui est des bijoux. Il y a plus de gens qui achètent des bijoux comparativement à avant, puis c'est autour de 217 $.
Qu'on dépense.
Les cadeaux, les divers cadeaux, ça peut être des cartes avec des cartes chez Jean Coutu.
Au
Dollarama, c'est encore mieux, sont à 1 ou 2 $ plutôt que chez Jean Coutu, c'est à 12$ la carte.
Tu sais qu'ils sont rendus 2,50 chez Dollarama, c'est insultant raide.
C'est-tu vrai?
Eh oui.
Je le sais pas, mais moi, ça m'insulte encore plus quand j'achète ça à 12$.
Oui. Hey, ça n'a pas de bon sens, c'est un bout de papier. On peut-tu prendre un instant?
Tu sais, le poème n'est pas plus beau dans la carte sur Jean Coutu qu'au Dollarama.
Non, non, c'est épouvantable.
Fait que bref, ça peut être ça avec une carte cadeau ou un moment.
Oui.
Tu sais, moi, il fut un temps où j'achetais, puis là, j'ai arrêté de faire ça, mais j'achetais des moments.
Oui.
OK? Mettons, j'achetais un certificat cadeau qu'elle pouvait utiliser avec moi au « Il se bosse pas ». Mais je suis pas un gars qui va là, moi, il se bosse
oui,
pas.
Mais ça lui fait plaisir que tu y ailles avec
lui. Fait que là, elle se ramassait tout le temps avec une de ses amies. Ah. Fait que là, moi, je payais pour ses amis. Fait que là, j'ai arrêté d'acheter ça. Mais exemple, ce qui est cool, c'est certificat cadeau Place Laurier. Certificat
oui.
cadeau Galerie de la Capitale.
Mais même tout ça, ce qui est forfaiterie, là, c'est super le fun. Puis regarde, là, je vais plugger quelque chose là, qui va changer vos vies si vous n'êtes pas au courant. Là. Toutes les radios ont un site, OK? Nous autres, c'est mercado.fm.
Ouais.
M-E-R-C-A-D-O. Mercado, ça veut dire marché. Là. C'est en espagnol, on est bien fancy. Là. Mercado.fm. Puis sur le mercado.fm, il y a plein de clients de la station qui mettent des forfaits, que ce soit des moments, que ce soit des thermopompes. Il y a toutes sortes d'affaires, OK? À 50% de rabais.
Hey, je pourrais y donner une thermopompe non, mais...
C'est une façon de dire qu'il n'y a pas juste des moments. Il y a des certificats au restaurant. Ce soir, je vais manger au Maurice, à Grande Allée. J'ai pris mon certificat cadeau, littéralement, sur mercado.fr. Okay. Il m'a coûté 50$, j'ai 100$ de carte cadeau entre les mains.
Ah oh, ouais, t'as un 50%
de rabais. Oui, non, ça vaut vraiment la peine. Fait que si vous cherchez en ce moment les boys là, pour vos mamans ou les femmes pour vos mamans, là, il y a plein d'affaires, des affaires de spa justement, des soins, il y a toutes sortes de trucs sur ce site-là. Puis vous les payez moins cher, puis vous donnez quand même un beau forfait à ouais. votre être aimé.
Pour ce qui est des cadeaux qui vont se donner dimanche, est-ce que l'achat de fleurs cette année, comparativement à l'an passé, va diminuer
ah, je
ou
pense
va
ça augmente,
augmenter?
Ça. Les fleurs, c'est toujours un winner.
Ouais,
là.
J'aurais pensé, moi aussi, que ça augmente. On me dit que ça demeure stable. Et le coût moyen de l'achat de fleurs, c'est 59$.
Ah, c'est raisonnable. Ouais, c'est ça. À ce prix-là, t'en as peut-être deux.
Mais je serais curieux de parler avec un fleuriste. Comment il calcule son coût de revient?
C'est une... non,
parce que
c'est
moi, là,
bon,
à Saint-Valentin, là, j'ai tout le temps l'impression de me faire cambrioler. Là. Des fois, je dis, t'es peu, faut-tu que je mette les fleurs sur mon hypothèque? Là?
Ouais, c'est vraiment dispendieux.
Ouais.
Ben écoute, 971-102, si on en connaît un, là, osez nous écrire. Là,
ils ont tout le temps des beaux chars. Ils ont tout le temps des beaux chars.
Ça vient avec, on dirait. Hein?
43% des consommateurs québécois comptent effectuer des achats pour souligner la fête des mères. Donc, 4 Québécois sur 10. Donc, ben cheap!
Ben là,
votre mère vous a eu, elle a travaillé fort pendant 9 mois, elle vous a accouché.
Oui, mais c'est-tu la façon de la remercier, de la gâter pourrie de cadeaux?
Ben, une petite pensée.
Une pensée assurément.
Hein? Exemple, si votre mère est rendue une grand-mère, prendre une belle photo d'elle que vous avez numérique, aller sur Jean Coutu, acheter un petit cadre puis donner ça. T'sais, elle va être super heureuse, mais il faut donner un petit présent. Là. Mm-hmm. Hey, elle est cheap. 4 sur 10! 4 sur 10 qui prévoient acheter des cadeaux. Près du tiers d'entre eux prévoient toutefois dépenser moins cette année, selon le baromètre. Les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes à prévoir les achats pour l'occasion et l'intention baisse proportionnellement avec l'âge croissant des répondants. Donc, visiblement, les hommes sont encore obligés de payer payent en majorité dimanche.
Pauvres hommes, hein?
C'est ce qu'on dit, hein?
C'est épouvantable.
C'est pas moi, c'est une étude très scientifique.
J'aimerais savoir les sources.
Dorama Marketing. c'est quoi le pourcentage des Québécois qui disent d'ailleurs être inquiets face à l'avenir, selon le coup de sonde qui a été réalisé en janvier...
Par rapport à leurs sous?
Sur la confiance des ménages québécois, par rapport à l'économie en général.
Ouais. Ben là, j'ai goût de te dire un bon 70, là.
Toi, tu dis 70.
% des gens qui seraient inquiets de leur avenir
financier.
Il y a
énormément de fonctionnaires au Québec. Moi, j'aurais dit un bon 50% des gens à peu près qui sont stressés par rapport à l'avenir.
Puis...
Hey, c'est 80%.
Hey, c'est énorme. Hein?
Ouais, c'est 78% plus précisément des gens qui sont d'ailleurs inquiets face à l'avenir. Puis je sais pas, je suis là-dedans.
T'es pas inquiet par rapport à l'avenir?
Hier, là, je lisais un peu sur Daniel Smith là, qui dit regarde, moi si ça fait pas, je vais donner la permission à mes Albertains de faire un référendum pour quitter le Canada. Moi, je voterai pas pour ça, c'est Daniel Smith. Moi, je n'embarquerai pas là-dedans, mais si les citoyens veulent le faire, je vais leur laisser la possibilité de le faire. Des fois, je pense sacrer mon camp d'Alberta.
Mais voyons, toi.
Vraiment. J'ai tellement peur pour mes enfants. Là.
Pour l'avenir de tes enfants?
Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tout le monde se fout de l'économie. Puis là, les gens votent encore pour des gens qui ne les aident pas, qui nuisent à notre économie. Puis on regarde les hôpitaux qui sont dans en décrépitude. Mm. Tu sais, l'hôpital Maisonneuve.
Ben, c'est épouvantable.
Je veux dire, ils sont plus rendus à colmater la fuite d'eau. Ils sont rendus à dévier, à accepter qu'il y a une chute à l'intérieur de l'hôpital.
Ils vivent avec.
Puis dire, comment on peut faire pour la dévier, pour finalement la faire passer au travers de tous les planchers, puis après ça, la faire retourner dans les égouts, puis de voir que... Les politiciens se sont outrés de ça parce qu'il y a un reporter à TVA qui a pensé faire un reportage sur cet hôpital-là.
Les priorités sont pas bonnes places.
Il n'y a rien qui me laisse positif pour le futur. Ah, rien. Puis quand j'ai vu Daniel Smith qui dit « Peut-être qu'un jour l'Alberta sera souveraine, peut-être qu'un jour l'Alberta fera partie du 51e État », des fois je me dis « C'est-tu là? » J'ai plein de chums qui sont travailleurs là-bas sur la construction. Le coût de la vie est très élevé quand tu veux un appartement en Alberta.
Oui.
Tu payes le prix. Mais il fait bon vivre pour l'économie là-bas. Mmh. Ça fonctionne bien. Puis pour les enfants, il y a peut-être un peu moins d'inquiétude. Mais pour mes gars, je pense que je fais partie du 80% des Québécois.
Pour l'avenir, oui.
Ouais.
Mais je te comprends totalement, là, je veux dire. C'est quelque chose à quoi on pense. Tu sais, on a déjà eu la discussion
sur... Fais pas d'enfants, Audrey!
C'est là, je m'en allais. On a déjà eu la discussion sur les enfants puis les futures familles. Il y a beaucoup de gens de mon âge qui veulent pas d'enfants parce qu'ils se disent que c'est pas un monde dans lequel ils ont envie de voir grandir leurs enfants. Mais c'est sûr qu'on est très négatif aussi ce matin. Là, je veux dire, il n'y a pas juste du négatif. Là.
Mais Audrey, c'est important quand tu as des enfants de penser à leur avenir. Parce
oui,
que les autres, là, bon, je vais sonner peut-être philosophique ce matin, ce qui est assez rare dans mon cas.
C'est le more deep.
C'est, ils n'ont jamais demandé à venir au monde.
Ouais.
Puis tu essaies de les mettre...
C'est vrai que c'est gros, hein?
Oui, tu essaies de les mettre dans un endroit qui est sécuritaire pour eux, les voir grandir, profiter de leur enfance, s'amuser. Puis au travers de ça, ben, c'est toi qui as désiré avoir des enfants. Donc, tu retires un certain bénéfice du bonheur que tu as. Mais, tu sais, moi, je leur ai ouvert des comptes là, quand ils étaient jeunes. Puis mes chums riaient de moi en disant, voyons donc, 5$ par semaine. Yann, 5$ par semaine. Tu sais, t'es aussi bien de leur donner comme un genre 10 000 à 18 ans, puis ils vont être bien contents puis bien heureux. Mais depuis qu'ils sont bébés, moi, que je mets 5$ par semaine dans leur compte en banque, parce que j'ai peur pour leur avenir.
Puis j'ai juste hâte de
voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils auront 18 ans. Puis qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils auront 25 ans. Audrey, il y a des maisons à Val-Bélair.
Ah oui, oui, mais c'est des vagues, là. Okay. Je veux dire, c'est pas la première fois que...
Des maisons à Val-Bélair, là. C'est des chacs à patates, là.
Okay? Mais tu qu'on parle des maisons à Deschambault, c'est encore plus loin.
On dirait que c'est des maisons qui ont été bombardées,
mais
là.
Oui.
Puis après ça, les résidents ont quitté. Puis il y a tout le temps des chars qui sont en face de ces maisons-là. Ces maisons-là sont à vendre. Sont à vendre 400, 500, 600 000, puis c'est écrit « idéal pour bricoleur ».
Non, hein? Non, je sais, t'as raison, mais chaque génération a eu ses défis pour la prochaine, Yann.
Mes gars vont faire quoi? C'est pas vrai que chaque génération a eu ses défis pour la prochaine. Il y a des générations qui ont été pas mal plus aisées.
Bien, à différents niveaux, là, toi, tu parles d'économie.
Je pense que ma génération, à moi, même si des fois, c'est pas toujours le cas, là, je pense qu'on fait partie d'une génération qui a été quand même gâtée. Mais la génération de nos enfants,
mettez 5 piastres dans le compte en banque. Ils s'en sortent pas trop mal, là. Ouais. J'ai l'impression que les stagiaires qui sont arrivés s'en sortent pas trop mal non plus.
Tu t'en sors pas trop mal, mais si Tchum habitait ça, serais-tu capable de se payer une maison?
Ah, non, non, il y a des difficultés. Hey, je te dis pas, j'essaie juste de faire la balance ce matin.
Si Audrey était seule, serais-tu capable de se payer une maison?
Non.
C'est capoté, là.
Ben oui,
ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre en codépendance jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils veulent rester
moyens,
dans
un
endroit avec un petit lapin de terre.
Ben oui, mais ça, par exemple...
Combien de chums que j'ai autour de moi? Okay, des fois, vous allez dire que j'ai des chums un peu bizarres, mais combien de chums autour de moi me le disent pas, mais ils comptent sur la mort de leurs parents
pour
pouvoir avoir une retraite paisible?
Ça, c'est épouvantable.
C'est pas des jokes, là. Toi, tu connais pas cette génération-là encore. T'es pas encore arrivé.
Oui, mais Yann, là, je comprends. T'as
raison. Mais je jase avec des gars de 50, 60 ans.
Là, je veux juste qu'on mette les balances. Je vais faire le poids de balance.
Qui vivent comme des princes en Arabie Saoudite.
Mais là, on est au Québec, Yann. On n'est pas en Afghanistan.
Ils ont pas de REER. Ils ont pas de CELI. Oui. Ils ont 50, 60 ans. La maison, ils viennent d'en racheter une qui est à peu près 10 fois ce qu'ils pourraient se payer normalement. Puis ils disent...
C'est rough, t'as raison.
Mais mes parents vont mourir à un moment donné. On va vendre la maison puis on va vivre là-dessus. Puis je dis tout le temps, t'en as-tu parlé avec ton père,
ça? Non, non, idéalement, ça, tu dis pas ces choses-là, t'es assumé pas à
voir. Mais pourquoi on peut pas dire ça? Je l'entends!
Oui, non, mais t'aurais... Moi, j'ai l'impression, veux-tu... Honnêtement, moi, je sens que j'aurai pas de retraite. Moi, j'ai l'impression que je vais être pognée pour travailler jusqu'à la fin de mes jours, puis j'en aurai pas de sous pour vraiment vivre d'une retraite paisible. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Je veux dire, je peux passer ma vie à m'insurger, puis à être en maudit, puis à chialer contre le gouvernement, puis à dépenser de l'énergie.
Mais au quotidien, qu'est-ce que tu fais?
Au quotidien, j'essaie de rester positif et de gérer ce que je peux gérer, Yann. C'est ça que je fais.
Oui, mais t'essaies-tu de te prémunir contre cet avenir-là qui est
ben, j'essaie. Ben oui, j'ai un conseil financier. J'essaie de me débattre comme je peux, tu comprends?
C'est la meilleure des affaires que tu peux faire.
Ben oui, mais c'est parce que tu peux pas passer une vie non plus à avoir peur du futur puis à dire que le futur, ça va être de la merde, puis à stresser, puis ta vie va être de la merde longtemps.
Mais
là.
Positif, puis ne pas s'activer, c'est deux choses, là.
Puis je veux dire, il y a une autre chose. Il y a un texto qui vient de rentrer que je trouve vraiment véridique, là. Le monde au Québec ne savent pas compter, malheureusement. Puis oui, ça se représente dans notre gouvernement. Je suis d'accord aussi, Antoine, là, mais c'est vrai qu'on n'est pas éduqués financièrement, là. Il y a des gens, en ce moment, de mon âge, qui ont eu l'intelligence de ramasser leurs sous jeunes parce qu'ils se sont éduqués financièrement, de bien placer leur argent. Puis pour eux autres, vois-tu, je ne suis pas inquiète pas en tout pour l'avenir. Moi, je fais partie de la tranche de nounounes qui ne s'est pas informée à temps. Et là, je me débat à l'âge que j'ai.
T'es pas nounoune en passant, t'es très intelligente.
Non, oui, merci. Mais je veux dire, je me suis pas éduquée financièrement. J'ai pas fait cette action-là. Moi, je préférais vivre dans le déni puis au jour le jour, début vingtaine. Et là, je commence à placer mes affaires. J'aurais pu placer mes pions plus tôt. Il y a ça aussi. On est mal éduqués financièrement au Québec, fait qu'on s'aide pas comme particulier. Là. On va se dire les vraies affaires. Le gouvernement est de la merde, oui. Là. Mais je veux dire, si t'es intelligent le moindrement, puis tu places tes affaires, si t'es gars, tu comprends, tu leur enseignes la valeur de l'argent tôt, en plus de l'argent que tu leur as mis de côté, mais probablement qu'ils vont commencer à mettre de l'argent tôt de côté.
Les gars et les filles dans la quarantaine là, ont appris dans leur génération que tu ne peux plus compter sur le gouvernement,
ben oui.
Alors que les générations qui étaient au-dessus de nous comptait uniquement sur le gouvernement.
Mais là, on sait qu'on peut pas.
Combien de gens vivent sur leur petite pension et sont incapables de se trouver un loyer?
Oui, puis c'est cruel.
Qui ont besoin
là.
De subventions pour pouvoir se loger.
Oui.
Bien, nous autres, ma génération à moi, si on a appris quelque chose de dur, là, c'est que le gouvernement ne sera pas là pour nous autres alors qu'on a envoyé du cash comme pas possible.
Ouais. Mais je pense que nos enfants vont être corrects parce qu'on va les éduquer dans ce sens-là, qu'il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Puis on est... Là, j'essaie de faire la balance encore une fois, parce que là, t'étais un gars zen, mais t'es passé de zen à assez agressif dans tes propos le matin. Mais tu sais, on est chanceux quand même, Yann. On est au Québec, là. On n'est pas en guerre. La vie va bien. Bon, il y a Trump, là, mais je veux dire, on est chanceux, là. On vit pas dans la merde, là.
Ouais, mais quand tu vas avoir des enfants, tu vas t'inquiéter pour
leur
avenir.
C'est sûr.
Fait que ce que je veux dire, c'est qu'en fin de semaine, c'est la fête des mères. Gâtez vos mères.
Mais vous allez être pauvres.
Gâtez vos blondes qui ont, avec qui vous n'avez pas eu d'enfants, mais qui ont des enfants. C'est important de le faire. Des fois, les relations avec les ex, que ce soit homme comme femme, là, des fois, ça a pu. Il n'y a plus de contact, vraiment.
Ouais. Mais tu as quand même donné tes enfants.
Oui, je sais. Mais des fois, il y a de la chicane. T'sais. Ouais. Puis je comprends que vous pouvez pas, vous voulez pas le faire. Mais pour ceux qui peuvent le faire, quand ça s'est bien terminé, jetez un petit cadeau pour la mère de vos enfants. Faites signer vos enfants. Faites-leur faire un beau dessin pour la mère.
T'es un bon papa.
Puis la mère, elle va être super contente. Puis même affaire pour votre blond, avec qui vous n'avez pas eu. Hey Steph, tu viens de m'écrire, tu ne m'as pas rappelé hier. C'est lui qui voulait le label. Mais c'est ça. Même votre blonde, qui a des enfants qui ne sont pas les vôtres, c'est une mère aussi.
Oui.
Puis probablement qu'elle s'occupe de vos enfants quand ils viennent à la maison.
Ben oui.
Donc, c'est une belle-mère. Ça peut être la fête des belles-mères aussi en fin de semaine.
Totalement.
Fait que dépenser.
Mais l'avenir
dépenser
est incertain.
Dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain.
L'avenir est incertain. Fait qu'écoutez, Yannick, mettez pas trop d'argent là-dedans non plus. On va virer pauvre. Le gouvernement n'est pas là pour nous autres. Tu me brûles le matin, tu me fais rire.
Antoine dit, mais si l'Alberta se sépare, c'est pas juste 14 milliards de moins en péréquation, mais une chute du dollar canadien. Ouais, c'est un bon point. Peut-être qu'on en reparlera tantôt dans Marceau le midi. Isabelle dit, puisqu'il faut pas oublier qu'il faut être capable de placer de l'argent aussi, car parfait, faut que tu grattes. Moi, personnellement, je suis rendu à 50 ans et je commence seulement à être à l'aise financièrement avec mes 4 enfants qui sont élevés et placés.
Bon, tu vois.
Félicitations.
Ben oui, mais ça, c'est le bout de plate. Là. J'imagine que quand tu as des enfants, il y a ça aussi. Là. Tu t'appauvris pour eux autres, là, c'est normal. Là.
Oui. Là, il y a des gens qui disent « Audrey, si t'as besoin de quelqu'un pour toi qui fait tes finances.
» Hey, c'est vraiment gentil.
Audrey,
pour
tu sonnes pauvre.
Ouais, oui.
Tu sonnes pauvre.
Je
sonnes pauvre et beaucoup trop jovialiste.
Je suis pauvre et je vis dans le déni pour survivre. C'est ça le truc.
Mais c'est, tu sais, la codépendance que je te parlais, là ouais. ça me fait peur pour mes enfants aussi.
Mais oui, ça fait peur.
Tu sais, d'être obligé de... Ben, tu sais, au début, tu te rends compte, t'es en amour, puis t'es obligé de rester avec 10... 15, 20 ans oui. parce que tu n'as plus les moyens de la quitter, parce que tu as trop investi ou il n'y a plus les moyens de te quitter.
Je pense qu'on ne sera pas capable. Il y a une chose sur laquelle je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que les prochaines générations vont avoir de la misère à investir, à avoir des biens propres à eux, que ce soit des autos, que ce soit une maison. Mais je veux dire, le pire qui va arriver, là, puis là, je sais encore là, j'essaie d'être positive, mais c'est qu'ils vont être en appart longtemps ou ils vont louer longtemps, Yann. T'sais. C'est le pire qui va arriver.
Ça, c'est le rêve, ça.
Non, c'est pas le rêve. C'est le pire qui va arriver. Ils vont quand même être en santé. Ils vont quand même avoir probablement leur job. Tu comprends, ils vont être épanouis.
Puis là, je regarde le prix des loyers actuellement. Là, un 3,5 à
Val-Belair. Ah, c'est capoté, là.
Chez nous, à Val-Belair, ouais. Un 3,5, 1 200 $.
Mm-hmm. Ça me coûtait 1 320 chez nous. Je suis à l'autre bout du monde.
Un 3,5?
Non, c'est pas un 3,5, par exemple.
Roger, qu'est-ce qu'il dit, mon chum Roger? Mon fils travaille depuis l'âge de 15 ans. Il a un REE et maintenant, à 18 ans, il a placé tout son cash dans un CELIAP.
Il est intelligent, maudit.
Il y a beaucoup de monde qui me mentionne que leurs enfants ont plus d'argent dans leur compte en banque qu'eux lorsqu'ils avaient 18 ans.
Absolument.
Moi, quand j'avais 18 ans, ce qui rentrait, je le buvais.
Mais moi aussi, moi, ça sortait automatiquement.
Mais de plus en plus, il y a des parents qui éduquent leurs enfants à mettre de l'argent de côté. Mais moi, oui. J'essaye avec mes gars. C'est pas
il
toujours
faut.
Facile.
Mais est-ce qu'il y en a... Demande-y s'il y en a besoin. Il n'y a pas un livre, là, que c'est ça la question. Là. En as-tu vraiment besoin?
En as-tu vraiment besoin?
Moi, ça marche pas gros avec moi, mais au cégep, j'avais 5 jobs dans le but de pouvoir me sentir indépendante financière. Imagine comment
puis
je
là,
serais riche si j'avais tout
placé. Puis là, comment ça va?
Mais là, c'est...
Es-tu indépendante financièrement?
Je suis positive. Je suis pauvre, mais positive.
Maude Bouchard, c'est la neuropsychologue qu'on reçoit aujourd'hui.
spécialisée dans le sommeil. Ça fait plusieurs fois qu'on la reçoit, Maude Bouchard. Vous l'aimez généralement, vous avez tellement de questions pour elle. Puis aujourd'hui, ben, on se concentre sur le sommeil des tout-petits. Le sommeil de nos enfants, là, enfants slash adolescents, là, comment ça fonctionne. Les troubles de sommeil chez eux aussi, on a parlé chez les adultes, mais ça fonctionne différemment chez les plus jeunes. Fait que si vous avez des questions, ben 88-971-1021, texto.
Merci beaucoup. Nous autres, on s'en va en musique avec Jean Leloup, voyageur en ce mardi pluvieux.
Trop pauvre pour voyager.
Comment?
Trop pauvre pour voyager.
Les choses vont très vite. 418-971-1021, 418-971-1021. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous ont partagé leurs craintes par rapport au futur, que ce soit leur futur ou encore le futur des enfants.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans ta gang de craintes ce matin.
Oui, oui, mais tu vas voir, s'il y a quelque chose qui arrive dans notre sang quand on a des enfants qu'on n'avait pas
sûr.
Avant.
Moi, je parle comme femme indépendante, célibataire.
Tu sais, je parlais avec une grand-mère de 100... Je veux pas la vieillir, elle va me tuer, mais je pense que c'est 101 ans ou 102 ans, OK?
OK.
Puis elle me disait que même à 101 ans, 102 ans, ses enfants ont 60, mettons 78, 75 à peu près, puis elle a peur pour leur avenir.
Ben oui, mais quand tes parents exact. Toute ta vie, là, c'est
mais
normal.
Ça vient dans notre sang, puis on sait pas d'où ça vient. J'imagine que la nature est faite comme ça.
Mais c'est une bonne nouvelle. Je préfère des parents qui s'inquiètent toute leur vie que des parents qui s'en sacent.
Ouais, c'est ça. Maintenant, faut que tu décroches, par exemple, là?
Ouais.
Mais parce que tu peux pas tout gérer leur vie, c'est à eux autres de gérer leur vie, mais n'en demeure pas moins que tu t'inquiètes tout le temps
c'est
pour tes enfants. Hey, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021, qu'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous voulez participer à l'émission, vous avez des questions pour notre prochain invité, ça fonctionne par texto. Allons la rejoindre tout de suite, c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais je sais que vous l'appréciez parce que vous m'en parlez souvent. C'est Maude Bouchard qui est neuropsychologue spécialisée dans le sommeil. Salut Maude! Très content de t'avoir Salut. Encore avec nous ce matin. Beaucoup de boulot dans ton travail. Dans le fond, tout le monde dort. Fait que toute ton étude de marché était bonne. Là. Tout le monde dort.
Pas pire, hein?
T'es une femme d'affaires accomplie. C'est incroyable.
Pas pire quand même, oui.
Félicitations pour ton choix. Tu manqueras jamais de travail. Le sommeil, c'est ça touche tout le monde. Puis Audrey, pendant la pause, t'étais avec nous. Puis tu l'as entendu manquer de mourir en toussant. Là. Puis il y a Marc Hamilton, qui est microbiologiste, Maude, qui est un de nos collaborateurs, qui m'a dit dans un podcast que je faisais avec lui le soir, « Yann, les gens pensent que la grippe, là, tu peux guérir ça en allant faire du sport. Les gens pensent que la grippe, tu peux guérir ça en sortant dehors. »
En prenant des pilules.
Puis ce qu'il disait, c'est que la grippe, ça se guérit en restant à la maison, ça se guérit en dormant, en te reposant, puis ton corps va faire le travail. Parce que si tu fais du sport au travers de ta grosse grippe, même si tu as l'impression que ça va mieux pendant un certain temps, tu épuises ton corps, donc ton corps ne sera pas à combattre le fameux virus qui est à l'intérieur de toi. Maude, c'est si simple à comprendre. Pourquoi personne l'applique, ça? Pourquoi personne reste à la maison quand ils sont malades?
On a de la misère à faire ça, hein?
Ben oui, on a de la misère.
C'est tous les humains qui se retrouvent devant certains choix, puis on se dit, ah, ça doit pas être productif de me reposer, ça doit pas être productif de dormir, mais effectivement, quand on est malade, et même pour prévenir de tomber malade, de se reposer, de dormir, ça fait du bien. D'ailleurs, quand on est malade, hein, on le ressent que notre corps a besoin de plus de sommeil, ça se peut que vous dormiez plus,
ouais.
On le suit.
Puis on essaie de compenser des fois avec le café ou encore les boissons énergisantes. J'imagine qu'il n'y a rien de pire. Hey Maude, aujourd'hui, on se concentre sur le sommeil des enfants. Est-ce que tu as des patients qui sont des enfants?
Non. Donc, nous, à la clinique à Léo, on travaille avec les adultes de 18 ans et plus. Par contre, on travaille beaucoup avec les parents. Donc, on parle du sommeil des enfants. Et il y a aussi, partout au Québec, hein, il y a des psychologues, des neuropsychologues et des experts dans le sommeil des enfants qui peuvent aussi accompagner là, les gens qui ressentent le besoin d'avoir un accompagnement pour le sommeil de leurs enfants.
Ouais. Quand j'étais jeune papa, j'aurais aimé lire un livre, tu sais, « Jeune papa pour les nuls », pour m'expliquer comment ça fonctionne, les enfants, comment il faut que tu changes, puis les heures de sommeil, les boire et tout ça. Leur mère était quand même assez bonne là-dedans, puis moi, j'essayais de l'appuyer là-dedans au travers. Mais les heures de sommeil, j'avais aucune idée. Quand il était bébé, il dormait tout le temps.
Oui, puis personne ne fait la même affaire. Personne n'a les mêmes heures de coucher, de réveil.
Mais arrive à 4-5 ans où là, ton enfant te supplie de dormir plus tard. Puis là, tu te dis, t'es peu, là, tu me supplies, mais là, c'est parce que on se lève à 6h30 demain matin. Tu sais, combien d'heures de sommeil a besoin d'un enfant de 4 ans, 5 ans? Puis c'est la même affaire pour mon gars mes deux gars à la maison. J'en ai un qui est à 9 ans, puis l'autre qui est à 12 ans. Des fois, ils me disent, papa, le vendredi, on peut-tu faire une nuit blanche? Puis là, je leur dis, oui, mais non. <T'sais>, couche-toi à minuit, mais samedi, tu peux être sûr que tu vas te coucher pas mal plus de bonne heure, parce que dimanche, tu vas te coucher encore plus de bonne heure aussi. Mais le vendredi, tu peux te coucher un peu plus tard. Mais les heures de sommeil, tu sais, est-ce que c'est propre à chacun chez nos jeunes où il y a comme quand même des règles à respecter pour que le développement de leur cerveau puisse suivre son cours de façon normale?
Ce que je trouve intéressant avec le sommeil des enfants, là, c'est que, ben, la première chose que je veux dire, là, c'est que le parent est l'expert de son enfant. Donc, oui, c'est vrai qu'il existe des règles ou des choses qu'on peut suivre. Un enfant doit dormir tant de nombre d'heures à tel moment. Sauf que les parents qui nous écoutent savent aussi que, y a énormément de différences individuelles avec ça, que ce soit s'ils ont eu plusieurs enfants puis ils ne dorment pas tous de la même manière. Donc, au niveau je dirais, faut suivre son enfant. Puis c'est vrai pour le bébé, c'est vrai pour le jeune enfant. Faut s'assurer qu'il va avoir assez de sommeil pour ses besoins. Mais il y a des différences, hein. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. D'ailleurs, il y a des enfants qui vont garder la sieste plus longtemps, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres qui en veulent, ils veulent rien savoir. Il y a des bébés qui vont dormir 6 heures à 5 semaines. Puis il y en a d'autres que ça va prendre plusieurs mois. Donc, j'ai vraiment en tête le terme flexibilité, le terme suivre le besoin de son enfant.
Il y a des parents, on dirait, qui sont stressés par le fait que leurs jeunes enfants dorment moins, parce qu'on entend souvent que c'est pendant les heures de sommeil que toutes les informations qu'ils apprennent se consolident. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bien, il y a deux aspects, hein. Ils sont stressés peut-être par tout ce qu'on entend, puis les parents se font dire plein de choses qu'ils doivent respecter. La pression est assez forte, mais aussi parce que si l'enfant dort pas, bien là, le parent ne dort pas nécessairement. Puis on sait ce que la privation de sommeil, ça crée, hein. On en a parlé dans d'autres émissions, dans d'autres collaborations, où est-ce que, bien, on est plus irritable, on manque de patience, on cherche nos mots, on s'endort quand on devrait pas. Donc, les parents vivent un peu avec les deux. C'est pour ça que pour le parent, le fait de se reposer, le fait d'écouter aussi son corps. Tu sais, peut-être qu'on était un type de soir avant d'avoir des enfants, puis là, ben, on n'a pas le choix d'aller se coucher à 8h30, 9h le soir parce que l'enfant se réveille tôt. Donc, d'écouter son propre besoin aussi, ça peut faire du bien aux parents.
Qu'est-ce qui est le mieux pour un parent et son enfant au final? Est-ce que c'est d'avoir une routine? Moi, j'ai des gens autour de moi, Maude, là, qu'ils ont décidé que la routine, il n'y a personne qui la bougerait au niveau des siestes puis des nuits. C'est-à-dire que peu importe le temps de l'année, que ce soit Noël, que ce soit à 6h30, les enfants se couchent, ils se réveillent à 6h le lendemain matin. Puis c'est ça, tous les jours de l'année, les siestes sont à des heures fixes, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'exception. Et j'ai d'autres gens autour de moi que ben, les enfants suivent les parents, c'est beaucoup plus flexible. Quand ils ont envie de dormir, ils le sentent, ils laissent dormir. Qu'est-ce qui est le mieux pour le développement de ton enfant? Parce que je pense que c'est beaucoup ce qui inquiète par rapport au sommeil.
Je dirais que ça, c'est propre à chacun, hein? Puis il y a aussi le style de parents qu'il y a de parents.
Ouais.
Donc, c'est important de suivre ça avec quoi on est bien. Il y a des gens qui aiment la structure, justement, puis il y en a d'autres qui préfèrent être plus flexibles, comme tu l'as mentionné, Audrey. Donc, de s'écouter, parce qu'un parent qui est bien, puis qui n'est pas trop stressé, puis qui fait qu'est-ce qu'il aime, va être aussi bien avec son enfant. Je dirais que c'est certain qu'en termes de sommeil, une routine, ça aide. On en a parlé, le cerveau répond à la routine. Puis je pense à l'heure du matin, même d'avoir une heure de matin où est-ce qu'on se lève, qui est toujours la même. Et la routine le soir, elle peut être super importante pour autant pour les bébés que pour les jeunes enfants. On y va du plus excitant au moins excitant. On veut que ça devienne de plus en plus calme. Puis là, quand je dis routine, encore une fois, les parents, ils en ont en masse à penser. Donc, on y va au plus simple. C'est-à-dire que plus la soirée avance, bien justement, plus on fait des activités calmes. On peut avoir notre routine qui a 2-3 éléments, puis on les fait toujours dans le même ordre. Et ça aide l'enfant à se préparer tranquillement au fait qu'il va aller se coucher bientôt. Et je pense à la lumière aussi. Hein, on a tendance à avoir de la grosse lumière dans notre maison, dans la salle de bain. Souvent, c'est très clair. Hein. Assurons-nous, même pour le cerveau des enfants, c'est important de comprendre que la lumière diminue, que bientôt, on va aller se coucher. Donc, de diminuer la luminosité dans notre maison aussi. Pas juste pour nous, parce que c'est bon pour pour les adultes aussi, mais pour les enfants, ça peut nous aider.
Docteur Bouchard, neuropsychologue, est-ce qu'on en sait plus sur ce fameux mystère de la vie? La fin de semaine, en fait, du lundi au vendredi, mes enfants se lèvent à 6h20. C'est moi qui les lève et ça me prend un pied de biche pour l'élever de leur lit. Et le samedi et le dimanche, c'est moi qui essaie de dormir et mes enfants se lèvent à 5h45, top shape. Qu'est-ce qui fait que la fin de semaine, les enfants sont plus dynamisés versus la semaine où... Sérieusement, ils veulent juste pas se lever. C'est difficile. Puis, je suis pas sûr qu'ils fakent tant que ça. Ils ont l'air vraiment brûlés parce que c'est une journée d'école.
Ben là, vous me posez des grosses questions, puis je suis pas certaine que je vais avoir la réponse à ça. Sauf que, ben, il y a quelque chose d'excitant, hein, la fin de semaine. La journée est à nous, on en fait ce qu'on en veut. Donc, est-ce que ça peut jouer un rôle, puis ça fait en sorte que quand on se réveille, on est prêt, puis on veut partir, peut-être. La chose à laquelle je pense, c'est peut-être pas le cas de tes enfants, mais des fois, quand on a de la misère à se lever le matin, ça peut être selon les tâches qu'il y a à faire dans la journée, mais ça peut être aussi est-ce qu'on a dormi suffisamment, est-ce qu'on s'est endormi plus tard la veille. Mais sinon, pour le grand mystère, je pense que j'ai pas de réponse à ça.
Il y a encore des adultes qui font des terreurs nocturnes, mais les terreurs nocturnes, il y a beaucoup d'enfants qui en ont fait. Est-ce que tu en as déjà fait, Audrey?
J'en ai jamais fait, puis c'est une question qui revient par texto, là, fait, puis on s'en va vers là,
ouais.
Fait que c'est bien.
Parce que c'est paniquant quand tu entends ton enfant de 3-4 ans gueuler comme s'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Puis là, toi, tu te lèves, tu te dis, mais moi, mais qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il a vraiment l'impression que ce qu'il a vécu, c'est réellement vrai. C'est quoi le texto?
Le texto, c'est Carl qui nous dit, mon fils, qui a maintenant 14 ans, a pendant plusieurs années fait des terreurs nocturnes. C'est causé par quoi? Puis est-ce qu'il y a des séquelles possibles?
C'est super intéressant de parler de terreur nocturne parce que, comme vous l'avez mentionné, là, quand on ne connaît pas ça, qu'on ne sait pas que ça existe, puis qu'un enfant fait une terreur nocturne pour la première fois, c'est super traumatisant pour les parents. C'est intense, une terreur nocturne. Donc, c'est des enfants qui vont je dis se réveiller, mais pas vraiment. Hein. Ils sont un peu dans un entre-deux. Ils ont une réaction de peur, des fois extrême. Ils peuvent crier, ils peuvent se débattre, ils peuvent pleurer. Ils ont l'air d'être en détresse. C'est pendant le sommeil. Ces terreurs nocturnes-là, ça se passe pendant un stade de sommeil qu'on appelle le sommeil lent. Profond. Le sommeil lent profond, on en a plus en début de nuit. Donc, généralement, les terreurs nocturnes, ça va arriver dans le premier tiers de la nuit chez les enfants. Et ce n'est pas la même chose que les cauchemars. Les cauchemars, ça se passe pendant le sommeil paradoxal. C'est souvent plus vers la fin de la nuit. Et un cauchemar, on peut se rappeler du contenu d'un cauchemar. Il y avait un monstre qui nous faisait peur. L'enfant va être capable il va être réveillé après le cauchemar. Il va être capable de raconter son cauchemar. Ce n'est pas le cas pour les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, l'enfant ne se rappelle pas de qu'est-ce qui est arrivé. Les parents, ce qu'ils vont dire des fois, c'est que c'est difficile de rejoindre l'enfant. Des fois, c'est difficile de le réveiller ou de savoir s'il est réveillé ou non. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont faire des terreurs nocturnes parce que du sommeil lent profond, quand on est jeune, on en a en masse, un peu moins quand on vieillit, puis il est moins profond. Donc, c'est pour ça que ça se passe. Et il faut savoir que ce qui peut exacerber les terreurs nocturnes, le manque de sommeil, la privation de sommeil, des changements d'horaire, l'enfant s'est couché plus tard ou l'enfant a arrêté de faire sa sieste, par exemple, dans l'après-midi. Donc là, la pression de sommeil augmente. Il y a plus de sommeil lent profond. Il y a plus de terreur nocturne. Le stress aussi peut venir jouer un rôle et augmenter le nombre de terreurs nocturnes. Si ça peut laisser des séquelles, je ne crois pas, mais c'est pas plaisant à vivre.
Non, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le sommeil de nos enfants? Parce que il y a des trucs qui se vendent, là, pour ne pas les nommer, sur Amazon, là, des couvertures qui sont plus lourdes pour que l'enfant se sente peut-être un peu plus enveloppé, un peu plus en sécurité.
Oui, c'est magique.
Est-ce que c'est ma... Ah ouais?
Ah, toi, mais moi, j'en ai une. Moi, je
t'en as une. Tu sais, puis des fois, c'est pas grand-chose. C'est une couverture de 20 livres, 30 livres, mais ça fait une différence quand c'est sur toi. Puis chez certains enfants, ça semble fonctionner. Y a-tu des recherches qui ont été faites à ce niveau-là?
Il y a des recherches, oui, sur le sommeil des enfants. Puis je sais qu'au niveau des couvertures lourdes, chez certaines populations cliniques, donc qui ont certains troubles, après, on retourne à quelque chose qui est important, c'est-à-dire le confort, de se sentir bien. Puis c'est vrai pour son lit, pour sa chambre, pour son environnement, pour ses couvertures. C'est vrai pour l'adulte et c'est vrai pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de se sentir bien. Donc, puis. On garde un petit peu les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on veut que la chambre soit un petit peu fraîche, on veut que ça soit propre, on veut qu'il n'y ait pas trop de lumière non plus. Après, chez les enfants, c'est un peu différent. Des fois, on veut une petite veilleuse ou quelque chose comme ça. Fait qu'assurons-nous que ça ne fait pas trop d'éclairage non plus parce que leur cerveau répond, hein, lui aussi, aux indices lumineux. Quand on parlait des rythmes circadiens, puis le fait de s'exposer à la lumière le matin, puis de diminuer la lumière en soirée, bien, c'est parce que cet indice-là, ça vient parler à notre cerveau directement. Ça vient dire au cerveau de sécréter les hormones, soit d'éveil ou de sommeil. Donc, chez les enfants, c'est aussi un bon truc de s'exposer à la lumière le matin puis la diminuer le soir. Et oui, d'être confortable.
Je vais te poser des questions par rapport aux phases de sommeil. Bon, t'en as parlé tout à l'heure, sommeil profond, sommeil fondamental, le paradoxal, puis tu as aussi du temps d'éveil. Puis il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui bougent énormément pendant la nuit. Mon plus vieux est exactement comme moi. S'il s'endort sur le dos, il va se réveiller sur le dos, puis il ne bouge pas. Et mon plus jeune, là, c'est
il tourne d'un bord puis de l'autre.
Anti-horaire. Des fois, il est pied à 11 heures, des fois, il est pied à 2 heures. Il se promène dans son lit tout le temps. Parlons en premier des phases de sommeil. Est-ce que les bébés, les plus jeunes, ont plus besoin de sommeil profond, plus de fondamental, de paradoxal? Comment on détermine ça? Y a-t-il moyen de le calculer, là?
En fait, là, ce qu'on sait, c'est que de un bébé, ça dort pas comme un enfant de 4 ans, puis un enfant de 4 ans, ça dort pas comme un ado. Les stades de sommeil qui font partie de leur moment de sommeil, puis éventuellement leur nuit de sommeil, ne sont pas les mêmes. Donc, le bébé, c'est moitié-moitié. Il passe beaucoup plus de temps en sommeil paradoxal que l'enfant, puis l'ado. Puis éventuellement, il va consolider. Puis, des bébés, ça dort par période. Hein. Au début, généralement, par chunk, j'ai envie de dire, là, ça dort un petit peu, ça se réveille, ça dort un petit peu. Puis là, éventuellement, ça peut consolider une période de sommeil la nuit. Et là, ça va faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi pour la plupart. Éventuellement, la sieste du matin, elle sera plus nécessaire. On garde la sieste d'après-midi. Puis éventuellement, même la sieste d'après-midi va partir. Et là, on consolide vraiment une période de sommeil pendant la nuit qui va tranquillement ressembler un petit peu plus à ce qui se passe dans l'adolescence puis à l'âge adulte. Et bon, le sommeil change tout le temps, dans le fond, hein. D'un bébé à un ado, à une personne plus âgée, ça change. Puis je pense même aux ados aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, les ados, puis de leur sommeil. Ils ont besoin de beaucoup de sommeil, nos adolescents, et il
Ah,
se
fait qu'ils sont
passe
pas
quelque chose.
lâches, là.
Ben non, ils ont besoin de dormir, faut les laisser
Je
dormir
me souviens de
et.
ma mère qui surveillait si j'étais encore en vie avec mon bâton de hockey. Elle prenait mon bâton de hockey, puis avec la pointe du bâton de
Attendez.
hockey, elle poussait pour voir si j'allais avoir une
Ah, il
réaction.
y en a qui dorment jusqu'à midi, 13
Ah
heures.
oui, il n'y a pas de problème. 14h, 15h, pas de trouble.
Fait que c'est normal, monde.
Ben, c'est assez normal. Par contre, ils sont privés de sommeil, nos ados. Je vous explique pourquoi. Pendant l'adolescence, là, il y a ce qu'on appelle un retard de phase. Et ça, là, ça a été étudié, on le sait, le cerveau, avec ce qui se passe à ce moment-là. L'ado, là, naturellement, si on le laissait faire ce qu'il veut, il se coucherait tard puis il se lèverait tard. C'est pas tout le monde, il y a des différences interindividuelles, sauf que pour la plupart, il y a vraiment ce retard de phase-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il commence l'école super tôt. Donc là, puis il y a des études qui se passent aux États-Unis, à d'autres endroits dans le monde où est-ce qu'ils ont retardé l'heure de début d'école pour les adolescents pour voir justement si on était capable qu'ils soient moins en privation de sommeil, ces jeunes-là, parce que la privation de sommeil, on parlait que ça a un impact sur notre cerveau, mais ça a un impact sur notre santé aussi, puis sur notre santé mentale. Donc, ça peut amener des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Et là, on a une population qui commence très tôt, mais qui, naturellement, leur horloge biologique les ferait se coucher tard et se lever tard. Donc, la fin de semaine, quand ils dorment plus longtemps, c'est non seulement à cause du retard de phase, mais aussi parce qu'ils ont probablement manqué de sommeil pendant la semaine, puis là, ils sont en train de rattraper.
Fait qu'arrêtons de taper sur la tête de nos adolescents qui dorment jusqu'à 13 heures.
Les bébés qui bougent beaucoup, puis les jeunes enfants qui bougent beaucoup, là, la fameuse hormone là, qui est libérée dans le cerveau pour justement rendre le corps pratiquement raide et quasiment impossible à bouger. Pourquoi il y en a qui l'ont dès la naissance, puis il y en a d'autres qui l'ont pas pantoute, ça? Parce que moi, je bouge pas pendant la nuit. Hein. Je ne bouge pas pantoute, puis on me dit que c'est parce que mon cerveau fonctionnait normalement. Et ça, c'était ma plus grande surprise.
Wow.
Mais quand le docteur me dit ça, je me suis dit, si c'est un docteur qui me dit ça, je dois prendre ce compliment-là. Mon cerveau fonctionne normalement. Mais il y en a d'autres qui bougent d'un bord, de l'autre. C'est quoi qui fait? C'est-tu un dysfonctionnement du cerveau? C'est-tu, ils peuvent-tu prendre quelque chose pour compenser?
Ben, pas nécessairement. Puis il faut savoir que à travers la nuit, hein, il y a différents stades de sommeil et il y a des stades dans lesquels on bouge plus que d'autres. Je pense, tu sais, on a vraiment deux grandes catégories. Le sommeil paradoxal, on en a déjà parlé. Puis l'autre catégorie, c'est le sommeil lent. Et dans le sommeil lent, il y a différents stades de profondeur. Donc quand on s'endort, on est en stade 1. Puis le sommeil lent profond, ben, c'est du stade 3. En stade 1, tout ça, il y a plus d'activité musculaire, on bouge plus. Par contre, ce que tu mentionnes, c'est qu'en sommeil paradoxal, il y a vraiment quelque chose qui se passe où est-ce que nos muscles deviennent atoniques, en fait. Et l'idée avec ça, c'est qu'on ne puisse pas agir nos rêves, hein, parce qu'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Puis si on rêve qu'on est en train de courir puis de voler, ça va un peu être plate pour notre sommeil si on se met à faire ça. Donc, effectivement, on bouge beaucoup moins dans ce stade de sommeil-là. On a des mouvements des yeux, par exemple.
Oui.
Puis d'ailleurs, hein, je vous disais que le sommeil paradoxal, il y en a plus chez les petits bébés. Mais vous avez peut-être déjà vu ça. Un petit bébé, les yeux en dessous des paupières se mettent à
Oui.
bouger. C'est parce qu'ils sont dans ce stade de sommeil-là. Mais le reste du corps bouge moins. Par contre, il peut y avoir des petits twitchs musculaires, des petits. Mais règle générale, on bouge moins là. C'est dans les autres stade de sommeil, des fois qu'on va bouger un petit
Ouais,
peu
on a
plus.
tous déjà eu un conjoint ou une conjointe qui donne des coups là, pendant
Ah,
son
mon Dieu,
sommeil.
oui.
On a
Oh,
tous
oui.
déjà eu ça.
Les yeux ouverts.
Et là, c'est parce qu'ils sont réveillés ou endormis. S'ils donnent des coups réveillés,
Ah,
que ça
c'est par
donne.
exprès?
Peut-être,
Moi,
je sais
s'excusait à
pas.
chaque fois, mais je pensais que c'était dans son sommeil.
Maude, le somnambulisme chez les enfants, on dirait que c'est encore plus troublant que les adultes, là.
J'ai pissé dans le garde-robe chez nous, moi.
J'en doute pas pantoute, mais tu
J'avais
sais.
8 ans, je pense.
Ton petit, c'est ça, ton petit qui a 5, 6, 7, 8 ans, qui est somnambule, comment tu gères ça? Tu sais, il y en a qui disent, faut pas que tu le réveilles, faut pas. Comment tu gères ça?
Ben, le somnambulisme, c'est effectivement, il y en a plus chez les enfants à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus de sommeil lent profond chez les enfants. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont peut-être être somnambules plus jeunes, puis en vieillissant, vont arrêter de l'être. Il y a des adultes qui vont quand même l'être. Et donc, ça se passe dans le sommeil lent profond, encore une fois, premier tiers de la nuit, généralement. Et ça peut être très simple. Et ça peut être très complexe, c'est-à-dire il y a des enfants qui peuvent vraiment bouger, se lever. Comment on intervient, là, ça ressemble un petit peu aux terreurs nocturnes, c'est-à-dire c'est comportemental. On va mettre des choses autour pour essayer qu'il y ait le moins possible de ce type de somnambulisme ou de terreur nocturne, par exemple. Et pour ça, on fait attention à la privation de sommeil. Parce que quand on est privé de sommeil, suite à ça, là, notre cerveau, il intensifie le sommeil. Il va créer plus de sommeil lent profond à cause de la privation. Et donc, si on a un enfant qui est propice à faire du somnambulisme ou même des terreurs nocturnes, bien, ça se peut qu'il en fasse à cause de ça. Donc, un horaire de sommeil assez régulier, s'assurer que l'enfant a assez de sommeil. Peut-être qu'il y a besoin, tu sais, si on parle des plus jeunes enfants qui ont encore besoin de la sieste en après-midi, hein, des fois on se dit, ah, je vais enlever la sieste en après-midi, il va peut-être mieux dormir le soir. Mais là, on a une recrudescence des terreurs nocturnes ou des épisodes de somnambulisme parce qu'il manque de sommeil. Donc, c'est important, je pense, d'écouter ça. Si l'enfant se couche plus tard, ça se peut aussi que ça ait des impacts comme ça. Donc, on fait attention à la privation de sommeil. Est-ce que c'est une période plus stressante aussi? Tu sais, est-ce qu'on a, parce que ça aussi, ça peut la présence de ces troubles-là. Et voilà, donc des choses comportementales qu'on peut faire autour. Si c'est un problème qui est très présent puis qui nous stresse énormément parce que justement les comportements sont importants ou on doit s'assurer que c'est sécurisé, que la maison est sécurisée, que la maison est barrée, tout ça. Mais on peut aussi consulter son médecin puis en parler de ces troubles de sommeil-là. Hein. Ça existe des cliniques de sommeil, ça existe des médecins spécialisés, des psychologues spécialisés quand le trouble de sommeil est peut-être trop important.
Fait que tu barres pas la porte de chambre de ton enfant, là.
Mais en fait, avec le somnambulisme, c'est juste qu'il y a vraiment, hein, il y a des enfants qui sortent dehors, là.
Ouais, mais moi
Des
j'avais
enfants
dit,
qui,
ouais.
donc, on veut s'assurer que leur environnement est sécuritaire.
Exact. Moi, en Beauce, là, j'avais mis
Donc, ben,
sur
les parents.
la porte arrière, elle se barrait assez facilement, puis c'était impossible pour un enfant de l'ouvrir. Mais la porte avant, tu avais juste à tourner la clenche. Puis à partir du moment où je me suis aperçu que mes gars étaient capables de tourner la clenche puis sortir eux-mêmes la maison, ben j'ai mis un loquet, là, juste plus haut, autour de 6 pieds, mettons, là. Puis bon, là, c'était rendu complexe parce que la mère des enfants n'était pas capable de l'atteindre. Mais c'est pas grave, quand j'y parlais, elle pouvait pas se sauver. Mais j'avais mis un loquet supplémentaire pour empêcher mes gars de sortir parce que, comme elle dit, il y a des enfants qui sortent de la maison, puis nous autres, on avait le lac qui était juste à côté du chalet.
C'est capoté.
Fait que tu veux pas retrouver tes enfants dans le lac à 6 heures le matin. Vas-y.
Il y a un texto qui est entré. Pour savoir, qu'est-ce que tu penses, Maude, des horloges gros cloques? Tu sais, les espèces d'horloges, là, que, là, il y a un soleil, puis il y a une lune, là, puis là, l'enfant peut pas sortir tant que c'est pas un soleil, là, puis...
Oui, ben en fait, je pense que c'est un outil qui est intéressant quand on est en train d'apprendre à l'enfant à se lever à une certaine heure. Puis des fois, l'enfant va se réveiller plus tôt. Puis là, il apprend avec cette horloge-là qu'il lui reste tant de temps. Donc, un enfant, ça a besoin de comprendre son environnement, ça a besoin de justement d'informations simples comme quoi, OK, mais je sais que quand ça tourne, par exemple, au rouge ou quand le soleil arrive, bien là, je peux me lever. Donc, il y a plein d'outils comme ça pour les parents. Puis, comme je disais, on utilise ce avec quoi on est confortable puis ce qui marche bien pour nous.
Est-ce qu'il y a un lien avec la santé mentale puis les troubles du sommeil chez nos enfants pour leur développement comportemental?
Bien, certainement. On l'a dit en tout début, tout le monde dort. Les humains ont besoin de sommeil et il y a une relation bidirectionnelle entre le sommeil puis la santé mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un trouble de sommeil ou on ne dort pas suffisamment, il y a beaucoup de privation de sommeil, bien, ça pourrait faire en sorte d'avoir des troubles de santé mentale. Mais le contraire est aussi vrai. Si on a des troubles de santé mentale, ça se peut que ça le manque l'insomnie ou l'hypersomnie ou d'autres troubles de sommeil, bien, ça soit un symptôme de ces problèmes-là. On a besoin de dormir. Donc, s'il y a un trouble de sommeil, si on... Puis là, on parle des enfants depuis tantôt, là. Il peut y avoir des régressions, ça change tout le temps le sommeil d'un enfant. C'est vrai avec les bébés, c'est vrai avec les jeunes enfants. Par contre, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, puis vous sentez qu'il y a un problème qui est persistant, c'est correct de demander de l'aide aussi, puis d'aller trouver les bons experts pour vous aider. Vous êtes l'expert de votre enfant, mais des fois, d'avoir des informations sur justement, ou des outils sur quoi faire, ça peut vous aider. Parce que, ben oui, hein, on veut puis on ne veut pas nécessairement qu'ils fassent toute leur nuit ou qu'ils dorment parfaitement, mais on veut sentir qu'ils dorment suffisamment pour qu'ils puissent bien fonctionner finalement durant leur journée.
Les parents épuisés par le manque de sommeil de leurs enfants ou les jeunes parents, les bébés dorment pas, comment tu gères ça avant de péter au frère?
Ben, les jeunes bébés, c'est plus facile parce que tu fais des sommes avec eux autres l'après-midi. Ouais. Moi, le samedi, le dimanche, c'est bien quelque chose qui me manque du moment où mes gars étaient bébés. C'était bête de dormir avec eux autres sur le
divan. Mais tu sais, les nuits sectionnées, il y en a pour
les
qui ça
comiques,
fait pas?
Ouais, tu t'alternes. Père-mère, t'alternes. Tu vires fou sinon.
Mais c'est vrai, l'alternance, puis j'ai deux mots qui me viennent en tête. J'ai récupération, fait qu'il faut trouver des manières de récupérer. Que ce soit des moments de repos, des journées plus relaxes, oui, des siestes. Puis des fois, c'est pas toujours possible en même temps que l'enfant dort. Hein. Il y a des parents qui disent, ben oui, on me dit de dormir en même temps que l'enfant, mais j'ai 8 brassées de lavage à faire. Donc, mais peut-être que c'est possible à un autre moment, même si c'est juste un 15-20 minutes. Puis flexibilité. On suit, quand c'est des jeunes bébés, on va suivre leur horaire à eux. Et comme je disais, il y a des différences. Ça se peut qu'ils ne fassent pas ces nuits tout de suite, ça se peut qu'ils fassent très, très tôt, mais on essaie de suivre ça puis d'écouter son propre corps. Des fois aussi, si on est deux parents, il y a peut-être un parent qui a besoin de moins de sommeil que l'autre. Il y a peut-être un parent qui a plus de facilité avec le matin que l'autre. Il y a peut-être, donc c'est vraiment un travail d'équipe, je pense, où on peut soit s'alterner ou trouver qu'est-ce qui fonctionne mieux avec l'un ou l'autre. Puis pour la somnolence là, en tant que telle, parce qu'il va en avoir, on ne s'en sortira pas. L'exercice physique, ça peut aider de bouger dehors, de prendre une marche dehors, même si c'est juste un 15 minutes. La lumière, le matin, encore une fois, exposez-vous à la lumière le matin, ça peut faire du bien. Repos, sieste, on en a parlé, du social aussi. Des fois, quand on sait qu'on est vraiment somnolent, de voir des amis ou d'inviter des gens, de parler, ça peut nous aider. Puis la caféine. Regarde, la caféine, là, ça a été inventé pour une raison, donc ça peut nous aider à passer à travers des fois des périodes qui sont un peu plus difficiles la nuit avec les enfants.
Il y a un texto, Maude, qui est entré. Puis là, on n'est plus vraiment dans tout ce qui est parents-enfants, mais il y a quelqu'un qui nous dit, en faisant mes propres recherches, je pense que j'ai eu quelques épisodes de paralysie du sommeil. On a déjà effleuré le sujet dans d'autres chroniques ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fréquent? Puis comment on peut gérer cette situation-là?
Ouais, ben puis la paralysie du sommeil là, c'est pas le fun à vivre. Je sais pas si l'avez-vous déjà vécu, vous
Moi,
deux?
j'ai vécu deux épisodes. La première était terrifiante. La deuxième était plus une rencontre du troisième type. C'était plus j'explorais.
T'explorer.
Parce que je savais ce qui se passait. Fait que j'essayais de bouger mes bras, j'essayais de bouger mes jambes. Je trouvais ça très drôle. Là, j'essayais de voir si. Je savais que j'avais les yeux fermés, mais j'essayais de voir si j'étais capable d'ouvrir les yeux. J'étais pas
Oh
capable
mon
de le
Dieu.
faire. C'est paniquant. Puis t'as l'impression, Maude, tu sais, que ces événements-là, ça dure 45 minutes. T'as l'impression que ça dure 1 heure et demie, tellement que ça a l'air long. Mais en réalité, c'est quoi? Quelques secondes, tout simplement, moins d'une minute, là, la paralysie du sommeil.
C'est généralement assez court, puis des fois, ça peut venir avec des hallucinations. On appelle ça des hallucinations hypnagogiques ou
Ouais.
hypnopompiques, selon si c'est à l'endormissement ou au réveil. La paralysie du sommeil, c'est un état. Tu sais, tantôt, je parlais de sommeil paradoxal, puis je disais que nos muscles sont complètement atoniques. Il n'y a pas d'activité musculaire. Donc, ça se passe pendant le sommeil paradoxal. Après le sommeil paradoxal, il y a généralement un éveil, parce qu'un cycle de sommeil vient de se terminer. Et souvent, le matin, par exemple, quand on se réveille, bien, on était en sommeil paradoxal avant, parce qu'il y en a beaucoup vers la fin de la nuit. Et là, la paralysie du sommeil, là, c'est comme un phénomène qui s'insère entre le sommeil paradoxal et l'éveil. C'est comme si le cerveau est en train de se réveiller, mais l'atonie des muscles du sommeil paradoxal reste, et donc on n'arrive pas à parler, à bouger, à ouvrir nos yeux. Et ça peut être effectivement très, très angoissant, surtout. Tout que, comme je disais, des fois, ça vient avec des hallucinations. Donc, on entend quelqu'un est en train d'essayer de rentrer dans notre maison,
Ah,
venir nous
mon Dieu
attaquer,
Seigneur.
on entend, et on n'est pas capable de réagir à ça. Donc, je pense que de savoir que c'est un phénomène qui peut être normal, que les gens peuvent vivre, déjà, ça nous déstresse parce qu'on se dit, OK, la première fois, on ne le sait peut-être pas, mais après, on le sait. Et encore une fois, la privation de sommeil, ça peut exacerber, ça peut augmenter la présence de ces phénomènes-là. Donc, même chez l'adulte, de savoir que ben, si on a été privé de sommeil pendant un petit bout, ou si on s'est couché beaucoup plus tard, ben, si on a tendance à faire ça, ça se peut qu'il y en ait un petit peu plus.
Puis, pas de façon de gérer ça de manière rapide et facile.
Non. Mais ça
Dormir
dure 45 secondes.
suffisamment.
C'est
Dormir suffisamment.
épouvantable. Ouais. Hey Maude,
Exactement.
ça va être la dernière question parce que c'est une auditrice qui m'a écrit. C'est une femme d'affaires. Elle s'appelle Sandrine. À chaque mois, elle doit faire un voyage de plusieurs jours où elle quitte pour l'Europe et par la suite, c'est l'Asie. Et après ça, après l'Asie, ben elle revient au Canada puis elle me parle constamment du jet lag. Elle est tout le temps, elle a toujours l'impression qu'elle. Elle est fatiguée, elle n'est pas capable de reprendre son sommeil. Elle a toujours l'impression d'avoir une dette de sommeil. Puis elle a dit, est-ce que tu peux demander au docteur en neuropsychologie, Maude Bouchard, c'est quoi le meilleur moyen de se sortir du fameux jet lag? Puis pour certains, ça a l'air bien simple, là, mais si vous allez, des fois, vous allez au Mexique,
Non, t'as raison.
il y a 1 heure de décalage. Là, des fois, tu dis, tabarouette, on dirait que ça fait une différence, 60 minutes. Mais pour ceux qui s'en vont vers l'Europe ou pour ceux qui s'en vont vers l'Asie, quand ils reviennent au Canada, c'est complètement le monde à l'envers, Maude. C'est quoi la meilleure façon de s'en sortir du fameux jet lag?
Bien, déjà, là, la première chose, c'est que c'est normal d'avoir une certaine fatigue associée à ça parce que cette Sandrine, cette personne-là, challenge son horloge biologique à tous les mois, tout le temps. C'est la même chose avec les gens qui ont des horaires atypiques, par exemple, puis qui ont besoin de faire des corps rotatifs. Donc, il y a une certaine fatigue qui est normale et ça a un coût, ça. Donc, de voyager, d'aller à quelque part où il y a 6 heures de décalage, on ne peut pas en une journée tout d'un coup être bien correct. Par contre, c'est vrai qu'on peut mettre des choses en place pour s'aider. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on fait en clinique aussi, en accompagner les gens avec leur réalité spécifiquement, puis de trouver des solutions spécifiques à leur situation. J'ai en tête mélatonine, lumière, exercice physique, tout ce qu'on utilise comme outil, même sieste des fois, tout ce qu'on utilise comme outil avec aussi les travailleurs, les travailleuses aux horaires atypiques, selon qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, quand on fait de l'exercice physique, quand on s'expose à la lumière, c'est parce qu'on veut réveiller notre corps. Donc, selon où est-ce qu'on s'en va, ben si il est 6 heures du matin, où est-ce qu'on s'en va, mais que dans notre tête, il est minuit. Bien là, à 6 heures du matin, on va vouloir bouger, on va vouloir s'exposer à la lumière de l'endroit où est-ce qu'on est présentement. On peut utiliser la mélatonine aussi petite dose, vérifiez avec votre médecin, votre pharmacien que c'est correct de l'utiliser, surtout si vous prenez d'autres médicaments, mais la plus petite dose. Et la mélatonine, on va l'utiliser 2 heures avant l'heure qu'on souhaite s'endormir. Donc, encore une fois, si on a voyagé, notre tête, notre cerveau, il n'est pas à cet horaire-là, mais on peut, avec la mélatonine, peut-être essayer plus rapidement de l'aider. Des courtes siestes, parfois, si on est très, très, très somnolent et qu'on n'arrive pas à fonctionner, mais juste plus court parce que si c'est trop long, ben là, on va avoir de la misère à rattraper le nouvel horaire. Donc, c'est plein d'outils comme ça qu'on met au bon moment pour s'assurer qu'on est capable de prendre le nouveau rythme. Mais c'est ça, c'est du cas par cas, hein, selon où est-ce qu'on s'en va, combien de temps on reste là, après ça, est-ce qu'on revient? Donc, mais il y a des choses à faire, certainement.
Maude Bouchard, c'est toujours un plaisir de te jaser. Ce sera pour une prochaine fois. Je te souhaite de passer une belle semaine.
À vous autres aussi, merci.
À la
Alors, merci
prochaine.
d'avoir été là. Maude Bouchard est neuropsychologue. Elle est spécialisée dans le sommeil. C'est une personne à qui on adore jaser. C'est ça, la jeune femme qui m'a écrit, c'est une femme d'affaires. Se promène en Europe. Et par la suite, elle va en Asie, puis après ça, elle revient au
C'est des
Canada.
méchants décalages,
Puis ce qu'elle me
celui-là.
racontait, c'est que des fois, elle sait même plus si on est lundi ou
Hein?
mardi.
Hein? Elle est tout perdue.
Elle est tout
Normal.
perdue. Moi, ça m'est arrivé des épisodes de ma vie où je travaillais énormément avec le cégep au travers, là.
Ouais.
Puis j'étais parti du. J'avais 16 ou 17 ans. Je pense que j'avais 17 ans. J'étais au cégep. Fait que j'avais 17. Puis j'étais parti de chez nous à 6 heures. Ouais, 6 heures le matin, faut pas que je me trompe. C'était l'hiver. Fait que je suis parti à 6 heures le matin,
OK.
puis je trouvais que c'était quand même relativement tranquille sur les routes. Puis là, j'arrive pour mon quart de soir chez Ronald McDonald. Puis là, je rentre dans le McDo, puis là, je vois que c'est l'équipe du matin qui est là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font encore là?
Tu t'étais trompé?
Je pensais
OK,
que
tu
je me
étais.
réveillais
Ouais, je comprends ce
12
que tu
heures
veux
plus
dire.
tard.
Oh, ouais.
J'étais
T'étais
complètement mêlé.
déphasé. Ouais.
Puis, tu sais, j'ai pris mon baiser à pédale. Là. Je partais j'habitais à côté de Cégep de Limoilou. Pars en baiser à pédale. Je m'en vais au McDo. Tu sais, la noirceur l'hiver, c'est ça. Là.
Mais c'est la
Fait que
base,
tu
puis
vis avec. J'étais complètement déphasé.
on néglige tellement le sommeil parce que pour certaines personnes, moi j'ai souvent entendu, on dormira quand on sera mort. On dormira quand on sera mort, là, ça se néglige bien du sommeil. C'est là que tu récupères du temps. Tu sais, tu te dis, je vais me coucher plus tard, me lever plus tôt pour faire mes affaires. Puis... Mais moi, là, je sais pas toi, mais je réalise plus le temps avance dans la vie que si j'ai pas mon 8 heures de sommeil, attache-toi. Je suis pas de bonne humeur, j'ai de la misère à fonctionner, je suis perdue.
C'est ça que t'avais un matin.
Oh, hey, je suis folle de bonne humeur.
Johnny qui dit, est-ce que c'est vrai que travailler avec des horaires rotatifs diminue l'espérance de vie? Ben moi, ce que j'ai vu comme étude, c'est que les travailleurs de nuit diminuent leur espérance de vie.
Bien, c'est sûr, tu vas à l'encontre de ton cycle naturel.
Ouais. Mais moi, je peux pas dire ça, mais c'est une étude, ben, une ou deux études que j'ai lues à travers le temps qui mentionnaient que tu réduisais ton espérance de vie au même titre que la cigarette, au même titre que l'alcool à profusion, là.
Parce que c'est la base. C'est comme l'exercice physique. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus aussi, que si tu prends pas le temps de travailler ton corps au fil des années, tu vas vivre moins longtemps.
Ah, je travaille mon corps. Je
Tu travailles ton
sculpte.
corps.
Je sculpte mon corps. Hey, le 14 juin prochain au parc de la Chute Montmorency, c'est la 15e édition du défi Kilimanjaro à Québec, organisé par la Fondation du CHU de Québec.
C'est tellement hot,
Le
ça.
défi, c'est assez simple. C'est en équipe, vous allez devoir faire 60 montées des escaliers, 29 220 marches, les amis, soit l'équivalent de la célèbre montagne africaine, et vous engager à amasser des dons pour la recherche en neurologie. D'autres, on a Pascal Cévé qui va aller gravir
le
mont
vrai de vrai.
Kilimanjaro. Même si Denis Gravel pensait qu'elle l'avait déjà fait.
Hey, ça, là.
Quand on parlait du manque de sommeil,
Ouais, oh, ouais,
c'était ça.
Denis, ça l'a rattrapé.
Donc, est-ce que vous avez envie de relever le défi en famille? Moi, ça va être le cas avec les gars. Je vais leur proposer. C'est le Mini Kili qui est ouvert pour tous les enfants de moins de 13 ans et l'heure de départ est prévue pour midi. Il s'agit d'un défi amical, sans compétition ni objectif de levée de fonds, qui consiste à faire une montée avec ou sans les parents, en famille, entre amis ou entre collègues. Ça se passe le samedi 14 juin prochain au Parc de la Chute Montmorency. Venez soutenir la recherche en neurochirurgie et plusieurs festivités et prix de participation sur place qui vous attendent pour célébrer les 15e anniversaires. Ensemble, on va faire ça. Fondationduchudequebec.org, fondationduchudequebec.org pour en savoir plus sur ce bel événement. Et à ce qu'on me dit, c'est que monter des marches, ça fait des belles fesses.
Il paraît.
C'est ce qu'on me dit.
C'est ce que je fais, moi, le plus possible au tonique. Je monte du Stairmaster. Ça marche pas mal. Dans le retour.